histoire.
Salut à vous toutes et à vous tous, c'est Doé qui vous raconte toujours et encore des histoires. Et nous allons commencer un nouveau cycle, un cycle d'histoires bretonnes qui ont été recueillies par Émile Souvestre au 19e siècle sous le titre du Foyer breton. Et nous allons commencer par une histoire du pays du Tréguier, Comores. Bien longtemps avant la Révolution, on dit que Vannes était une ville encore plus belle et plus grande, et qu'à la place de monsieur le préfet, il y avait un roi qui était maître de tout. Ceux qui m'ont raconté les choses que je vais vous redire ne m'ont pas appris son nom, mais il paraît que c'était un homme craignant Dieu et dont on ne avait jamais mal parlé dans le pays. Il était veuf depuis longtemps et vivait heureux avec sa fille qui passait pour la plus belle créature du monde entier. On l'appelait Tryphina. Ceux qui l'ont connue ont assuré qu'elle était arrivée jusqu'à l'âge où l'on met les gens dans leur bien sans avoir commis un seul péché mortel. Aussi le roi, son père, eût-il mieux aimé perdre ses chevaux, ses châteaux et toutes ses fermes que de voir Tryphina mécontente de vivre. Cependant, il arriva qu'un jour, des ambassadeurs de Cornouailles se firent annoncer. Ils venaient de la part de Comores, prince puissant de ce temps-là, qui régnait sur le pays du blé noir comme le père de Tryphina régnait sur le pays du blé blanc. Après avoir offert en présent à ces derniers du miel, du fil et une douzaine de petits pourceaux, ils lui déclarèrent que leur maître était venu à la dernière foire de Vannes déguisé en soldat, qu'il avait vu la jeune princesse et qu'il en était tombé si terriblement amoureux qu'il la voulait en mariage, quoi qu'il pût lui en coûter. Cette demande jeta le roi et Tryphina dans un grand chagrin, car le comte Comores était un géant qui passait pour le plus méchant homme que Dieu eût créé depuis Caïn. Tout jeune, il s'était habitué à trouver son plaisir dans le mal et telle était sa malice que, lorsqu'il sortait du château, sa mère elle-même courait tirer la corde du beffroi pour avertir les gens du pays de se garder. Plus tard, quand il fut devenu le seul maître, sa cruauté n'avait fait que grandir. On racontait qu'un matin, en partant, il avait essayé son fusil sur un enfant qui allait conduire un poulain à la friche et qu'il l'avait tué. D'autres fois, lorsqu'il revenait de la chasse sans avoir rien pris, il découplait ses chiens contre les pauvres gens attardés dans la campagne et les faisait déchirer comme si c'eût été des bêtes fauves. Mais le plus horrible, c'est qu'il avait eu successivement 4 femmes qui étaient mortes tout d'un coup et sans avoir reçu les derniers sacrements, si bien qu'on le soupçonnait de les avoir tuées avec le couteau, le feu, l'eau ou le poison. Le roi de Vannes répondit donc aux ambassadeurs que sa fille était trop jeune et de trop faible santé pour changer de condition. Mais les Kernewods répliquèrent brusquement, comme c'est leur coutume, que le comte Comores ne croirait point à ses excuses et qu'il avait ordre, s'il ne ramenait point la jeune princesse, de déclarer la guerre au roi de Vannes. Celui-ci répondit qu'ils étaient les maîtres. Alors le plus vieux des envoyés alluma une poignée de paille qu'il jeta au vent en disant que la colère de Comores passerait ainsi sur le pays du blé blanc, après quoi il partit avec les autres. Le père de Tryphina, qui était un homme de courage, ne s'épouvanta pas pour une pareille menace et il réunit tous les soldats qu'il put trouver afin de défendre sa terre. Mais peu de jours après, il sut que le comte de Cornouailles conduisait contre Vannes une puissante armée. Il l'aperçut bientôt en effet qui s'avançait avec des trompettes et des canons. Il se mit alors à la tête de ses gens et la bataille ne pouvait tarder quand Saint-Veltas allait trouver Tryphina qui priait dans son oratoire. Le saint portait le manteau qui lui avait servi de navire pour traverser la mer et le bourdon qu'il y avait attaché en guise de mât afin de cueillir le vent. Une auréole de feu voltigeait autour de son front. Il annonça à la jeune princesse que ceux de Vannes et de Cornouailles étaient au moment de s'entretuer et lui demanda si elle ne voulait point empêcher la mort de tant de chrétiens en consentant à devenir la femme du comte Comores. « Hélas, c'est donc la mort de ma joie et de mon repos que Dieu demande !» s'écria la jeune fille en pleurant. Pourquoi ne suis-je pas une mendiante? Je ne marierai du moins au mendiant que j'aurais choisi. Ah, si c'est la volonté du maître de la terre que j'épouse ce géant qui me fait peur. Dites pour moi, saint homme, l'office des trépassés, car le comte me tuera, comme il a fait de ses autres femmes. Mais Saveltas lui dit « Ne craignez rien, Tryphina. Voici une bague d'argent aussi blanche que le lait et qui vous servira d'avertissement, car si Comor projetait quelque chose à votre détriment, elle deviendrait aussi noire que l'aile du corbeau. Ayez donc courage et sauvez les Bretons de la mort. » La jeune princesse, rassurée par le présent de cet anneau, consentit à ce que demandait Veltas. Le saint retourna sans retard vers les deux armées pour annoncer à leur chef cette bonne nouvelle. Le roi de Van ne se souciait guère de se consentir au mariage malgré la résolution de sa fille, mais Comor lui fit tant de promesses qu'il l'accepta enfin pour gendre. Les noces furent célébrées avec des réjouissances qu'on n'en a jamais vues depuis les deux évêchés. Le premier jour, on nourrit 6000 invités et le lendemain, on en reçut autant de pauvres que les nouveaux mariés servirent à table, la serviette sur le bras malgré leur haut rang. Ensuite, il y eut des danses pour lesquelles on avait appelé tous les sonneurs de la Basse-Bretagne et des luttes où ceux de Brévelet mirent à terre les Kernewods. Enfin, quand les marmites furent vides et les barriques sur la lie, chacun s'en retourna dans ses terres et Comor emmena avec lui la jeune mariée, comme un épervier qui emporte un pauvre bruant. Pendant les premiers mois, cependant, son amour pour Tryphina le rendit plus doux qu'on ne devait l'attendre de sa nature. Les prisons du château restèrent vides et les fourches de justice sans pâture pour les oiseaux. Les gens du comte se disaient tout bas, qu'a donc le seigneur qui n'aime plus les larmes ni le sang ? Mais ceux qui le connaissaient bien attendaient sans rien dire. Tryphina elle-même, malgré la bonté du comte pour elle, ne pouvait se rassurer ni prendre aucune joie. Tous les jours, elle descendait à la chapelle du château et là, elle priait sur les tombes des quatre femmes dont Comor s'était fait veuf, en demandant à Dieu de la préserver de rudes morts. Il y eut vers ces temps-là une grande assemblée de princes bretons à Rennes et Comor fut obligé de s'y rendre. Il donna à Tryphina toutes les clés du château, même celles de la cave. Il lui dit de se distraire à sa fantaisie et partit avec une grande suite. Il ne revint qu'au bout de 5 mois et arriva grandement pressé de revoir Tryphina dont il avait eu souci pendant toute son absence. Aussi ne prit-il point le temps de la faire prévenir de son retour et se présenta-t-il dans sa chambre au moment où elle taillait un petit bonnet de nouveau-né garni de dentelles d'argent. En voyant le bonnet, Comor pâlit et demanda quel devait être son usage. La comtesse, qui croyait lui mettre une grande joie au cœur, déclara qu'avant 2 mois, ils auraient un enfant. Mais à cette nouvelle, le seigneur de Cornouailles recula hors de lui et après avoir regardé Tryphina d'un air terrible, il sortit brusquement sans rien dire. La princesse eut pu croire que c'était un caprice, comme le comte en avait quelquefois, si elle ne se fût aperçue, en baissant les yeux, que sa bague d'argent était devenue noire. Elle poussa un cri d'épouvante car elle se rappelait les paroles de Saint Veltas et elle comprit qu'un grand danger la menaçait. Mais elle ne pouvait deviner pourquoi, ni trouver le moyen d'y échapper. La pauvre femme demeura tout le reste du jour et une partie de la nuit à chercher d'où venait la colère du comte. Enfin, comme son angoisse augmentait, elle descendit à la chapelle pour prier. Mais voilà qu'après avoir fini son chapelet, lorsqu'elle se levait pour partir, minuit sonna à l'horloge. Au même instant, elle vit les 4 tombes des 4 femmes de Comore s'ouvrir lentement, et celles-ci en sortirent couvertes de leurs draps mortuaires. Tryphina, à demi-morte, voulut fuir, mais les fantômes s'écrièrent « Prends garde, pauvre perdu, Comore t'attend pour te tuer. »« Moi, dit la comtesse, et que lui ai-je fait pour qu'il veuille ma mort ?» Tu l'as averti que dans 2 mois tu serais nourrice et il sait, grâce à l'esprit du mal, que son premier enfant le tuera. Voilà pourquoi il nous a ôté la vie quand il a appris de nous ce qu'il vient d'apprendre de toi. Seigneur, se peut-il que je sois tombé dans ses mains si cruelles ? S'écria Tryphina en pleurant. S'il en est ainsi, quel espoir me reste-t-il et que puis-je faire ? Va retrouver ton père au pays du blé blanc, répondirent les fantômes. Comment fuir ? Reprit la comtesse. Le chien géant de Comore garde la cour. Donne-lui ce poison qui m'a tué, dit la première morte. « Et par quel moyen descendre au bas de la haute muraille ?» demanda la jeune femme. « Serre-toi de cette corde qui m'a étranglée, » répondit la seconde morte. « Mais qui me dirigera dans la nuit ?» reprit la princesse. « Cette flamme qui m'a brûlée, » répliqua la troisième morte. « Et comment faire un aussi long chemin ?» dit encore Tryphina. « Prends ce bâton qui a brisé mon front, » acheva la dernière morte. La femme de Comore prit le bâton, la flamme, la corde, le poison. Elle fit taire le chien, elle descendit la haute muraille, elle vit clair dans la nuit et elle prit la route de Vannes où demeurait son père. Comore, qui ne la trouva pas le lendemain, en se réveillant, envoya son page dans toutes les chambres pour la chercher. Mais le page revint dire que Tryphina n'était plus au château. Alors le comte monta à la tour du milieu et regarda aux 4 vents. Du côté de la demi-nuit, il vit un corbeau qui croissait, du côté du lever du soleil, une hirondelle qui volait, du côté du milieu du jour, un goéland qui planait, et du côté du jour couchant, une tourterelle qui fuyait. Il s'écria aussitôt que Tryphina était dans cette direction, et ayant fait seller son cheval, il se mit à sa poursuite. La pauvre femme était encore sur la lisière du bois qui entourait le château du comte, mais elle fut avertie de l'approche de celui-ci en voyant la bague noircir. Alors elle se jeta dans les landes et arriva à la cabane d'un gardien de moutons où il n'y avait qu'une vieille pie suspendue dans sa cage. La pauvre affligée demeura là tout le jour, se plaignant et priant. Enfin, la nuit venue, elle reprit sa route par les sentiers qui côtoyaient les lins et les blés. Comore, qui avait suivi le grand chemin, ne put la rencontrer, et après avoir marché 2 jours, il s'en revint sur ses pas jusqu'à la lande. Mais là, par malheur, il entra dans la cabane du berger et entendit la pie qui essayait à imiter les plaintes qu'elle avait entendues en répétant « Pauvre Tryphina, pauvre Tryphina !» Comore sut ainsi que la comtesse avait passé dans cet endroit. Il appela son chien fauve, lui dit de chercher les pistes et se mit à le suivre. Pendant ce temps, Tryphina, poussée par la peur, avait toujours marché et était arrivée près de Vannes. Mais là, elle sentit qu'elle ne pouvait aller plus loin. Elle entra dans un bois, se coucha sur l'herbe et mit au monde un enfant merveilleusement beau qui fut appelé plus tard Saint Trévert. Comme elle le tenait dans ses bras, pleurant, moitié de bonheur, moitié de tristesse, elle aperçut un faucon qui portait un collier d'or. Il était perché sur un arbre voisin et elle reconnut le faucon de son père, le roi du pays où vient le blé blanc. Elle appela bien vite par son nom l'oiseau qui descendit sur ses genoux et elle lui présenta la bague d'avertissement donnée par Saint Veltas en lui disant « Faucon, vole vers mon père et porte-lui cet anneau. Quand il le verra, il comprendra que je cours quelque grand danger. Il ordonnera à ses soldats de monter à cheval et tu les conduiras ici pour me sauver. » L'oiseau comprit, saisit la bague et s'envola comme un éclair du côté de Vannes. Mais presque au même instant, Comore paraissait sur la route avec son chien fauve qui suivait toujours la piste de Tryphina. Et comme celle-ci n'avait plus la bague pour l'avertir, elle ne sut rien qu'en reconnaissant la voix du tyran qui encourageait le chien. La pauvre innocente sentit le froid parcourir ses os. Elle n'eut que le temps d'envelopper le nouveau-né dans son manteau pour le cacher au creux d'un arbre et Comore parut sur son cheval barbu à l'entrée de la clairière. En voyant Tryphina, il poussa un cri pareil à celui des bêtes fauves, s'élança vers la malheureuse qui était tombée à genoux et d'un seul coup de son couteau à tuer, il lui détacha la tête des épaules. Croyant s'être ainsi débarrassé de la mère et de l'enfant, il siffla son chien et repartit pour la Cornouaille. Mais le faucon était arrivé à la cour du roi de Vannes qui dînait avec Saint Veltas. Il vola vers la table et laissa tomber l'anneau d'argent dans la coupe de son maître. Celui-ci ne l'eut pas plutôt reconnu qu'il cria « Goua, il est arrivé quelque malheur à ma fille !» Le roi se jeta à bas de son cheval en poussant des cris, à faire pleurer les chaînes, mais Saint Veltas lui imposa le silence. « Taisez-vous, dit-il, et priez Dieu avec moi, il peut encore tout réparer. » À ces mots, il se mit à genoux avec tous ceux qui se trouvaient présents, et après avoir adressé au ciel une prière fervente, il dit au cadavre « Lève-toi !» Le cadavre obéit. « Prends la tête et l'enfant !» ajouta le saint, « et suis-nous au château de Comore !» La morte fit ce qui lui était ordonné. Alors la troupe épouvantée remonta à cheval et fit force d'éperon vers les Cornouailles. Mais quelque rapide que fût sa course, la femme décapitée se trouvait toujours en avant, tenant son fils sur le bras gauche et sur le bras droit sa tête pâle. Ils arrivèrent tous ainsi devant le château du meurtrier. Comore, qu'ils avaient vu venir, fit relever le pont-levis. Saint Veltas s'approcha des fossés avec la morte et s'écria à haute voix « Comte de Cornouailles, je te ramène ta femme telle que ta méchanceté l'a faite et ton enfant tel que Dieu te l'a donné. Veux-tu les recevoir sous ton toit ?» Comore garda le silence, Saint Veltas répéta les mêmes paroles une seconde fois, puis une troisième, et comme aucune voix ne répondait, il prit le nouveau-né sur le bras de la morte et le posa à terre. Alors on vit une merveille qui prouvait la toute-puissance de Dieu, car l'enfant marcha seul, librement jusqu'au bord du fossé, y prit une poignée de sable, et la lançant contre le château, s'écria « La Trinité fait justice !» Au même instant, les tours s'ébranlèrent avec un grand fracas, les murs s'entrouvrirent, et le château entier s'affaissa sur lui-même, ensevelissant le comte de Cornouailles et tous ceux qui avaient aidé à ses crimes. Saint Veltas replaça ensuite la tête de Tryphina sur ses épaules, lui imposa les mains, et la sainte femme revint à la vie au grand contentement du roi de Vannes et de tous ceux qui étaient présents. Aujourd'hui, je vous ai raconté une histoire un peu sanglante, hein, j'en conviens. On entend aussi beaucoup parler de religion, de saints dans ces histoires. C'était un folkloriste du 19e siècle, Émile Souvestre, qui a recueilli, qui a réécrit, et donc qui était très en accord avec son époque, forcément. Mais j'aime bien ce texte, hein, un peu rude. Ça fait aussi partie des contes et des légendes qu'on continuera d'écouter dans les semaines à venir. Allez, ciao, bye bye, c'était Doé qui vous racontait l'histoire.